Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
19h18 sur RTL. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonsoir Yves Tréa.
Bonsoir Marco. Bonsoir à tous.
Le vice-président de Valeurs Actuelles, Jean-Claude Dacier. Bonsoir.
Bonsoir.
Et notre chroniqueur éco ici à RTL, Christian Menanteau. Bonsoir Christian.
Bonsoir Marc-Olivier.
5 mois après ses premières confessions, ici même sur RTL, François Hollande fait le bilan de son quinquennat dans un livre, Les leçons du pouvoir chez Stock. L'ex-président des ses résultats économiques, regrette l'affaire Cahuzac, l'affaire Leonarda, la déchéance de nationalité, cible les frondeurs, mais surtout, il fait la leçon à son successeur, ex-collaborateur, Emmanuel Macron. Il étrille son autoritarisme et la dissimulation de sa candidature à l'Élysée. L'ancien monde, c'est le mien, et il a de l'avenir, affirme-t-il. Alors François Hollande rêve-t-il d'une revanche? Ce livre, enfin ce qu'on en connaît ce soir, demain Alain Duhamel qui l'aura lu complètement d'ailleurs nous débriefera l'ensemble du livre et pas simplement les bonnes pages. Sur les réseaux sociaux, qu'en dit-on de ce retour de François Hollande en librairie? Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir, ah mais Hollande sort ses mémoires, c'est pour ça qu'il s'est remis à pleuvoir ces derniers jours, comprend Pascal. Plus sérieusement, certains extraits acides hein, marquent déjà le web, le plus repris, l'ancien monde. Ah non, ça s'appelle la démocratie. Après un an, la guerre froide entre les deux hommes fait rage, note Nicolas Chapuis du Monde. Comment perdre ces derniers soutiens? Grince 11, faire ce que ses soutiens reprochaient à raison à Valérie Trierweiler. Rancœur et vengeance étalées dans un livre. Il aurait dû le titrer « Un président ne devrait pas dire ça, tome 2 », tac la rouette. Niveau rancœur, amertume et mauvaise foi, François Hollande est en train de donner une bonne leçon à Martine Aubry, confirmait Fix Bourmeau du Figaro. Les internets n'ont pas l'air spécialement pressés de découvrir ses justifications. Il a été battu par ses propres erreurs et lacunes, lâche Paris. En termes de dignité, de la fonction et du rôle de président, Hollande n'a pas beaucoup de leçons à donner. Siffle Charles. Hollande, le président le plus inutile de la 5e, le seul à n'avoir été même pas foutu de défendre son bilan pour un deuxième mandat, il vient parler de jouer au président, s'étrangle Alcide. Canel demande si le livre sortira dans la même collection que celui de Mélenchon, intitulé « Comment j'ai raté le pouvoir à 600 000 voix près ». Hollande est victime du syndrome des faibles, qui accuse leur entourage d'être responsable de leur perte alors qu'ils s'y sont employés tout seuls, accuse Alfred. Justine, tout de même, pour conclure, dit tant d'irrespect dans vos réponses. Hollande a fait le travail comme Macron le fait, à sa manière. On peut être en désaccord tout en restant correct et respectueux. Montrez que vous êtes intelligent.
Jean-Claude Dacier, donc, François Hollande, qui étrille son successeur de bonne guerre. Hein.
L'ancien monde, c'est la démocratie. Je trouve que la formule sonne bien.
La gueule.
La de la gueule. À part ça, je trouve que décidément, ces anciens présidents de la République sont un peu comme nous, simples citoyens, soumis en proie à des sentiments qui ne sont pas toujours très reluisants. Il y a quoi? Il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur.
Il y a peut-être un désir de vérité.
Il y a un peu de haine.
Il y a peut-être un désir de vérité, de dire les choses.
Oui, sans voilà. Vérité, sûrement. Ah bah il a envie de reconstruire un quinquennat qui a été quelque peu malmené et par l'histoire et par la presse et par tout le monde. Je le comprends, c'est humain. Je trouve néanmoins un peu triste qu'il se soit ainsi précipité. Il aurait attendu. Peut-être que les événements lui auraient donné davantage raison encore.
Ah bah là, regardez la croissance économique. Il nous explique qu'on la lui doit.
Hein. On en est à se demander pourquoi. D'ailleurs, il ne s'est pas représenté. Franchement, il aurait passé l'obstacle sans doute avec aisance. Non, je trouve qu'il s'est précipité. Je trouve que ça manque d'élégance. Même s'il y a des choses, semble-t-il, on va le lire demain, qui sont intéressantes. C'est quand même les coulisses pour des gens qui s'intéressent à la politique. C'est toujours passionnant. Au plan humain, je trouve ça un peu médiocre.
En fait, il aura beau raconter tout ce qu'il veut. Il aura beau raconter les stratégies de Poutine. Il aura beau raconter Merkel. Il aura beau raconter faire son autocritique. Il a trop parlé. Il aura beau raconter tout. On s'en fiche. En fait, on n'entend qu'une seule chose.
Vous vous en fichez.
Oui, vous. On va voir combien il vendra. Ouais.
Et c'est presque un prétexte, parce que le cœur du livre, ce qu'il veut nous dire, il se le dit à lui-même. Il est rentré chez lui un soir de défaite. Il a pris des notes. Il a commencé à écrire. Et il s'est dit, François, comment tu en es arrivé là?
Elle nous connaît bien.
Voilà un gamin à côté, aller chercher pour être conseiller.
C'est vous qui l'avez
écrit, tu n'as rien vu venir. Tu l'as nourri en ton sein. Mais on est dans la tragédie antique parce qu'il le dit tout le temps. Il dit, mais si j'avais, j'aurais pu le battre à la loyale, si ça avait été un adversaire, mais pas du tout. Il a même un peu triché, m'a envoyé un texto la veille du 14 juillet, j'ai rien vu venir. Et en fait, il cherche à comprendre ce qui s'est passé et il lui en veut terriblement, mais il s'en veut surtout à lui-même. Comment a-t-il pu être aussi naïf? Il s'est fait avoir.
dois animer. On en parlait tout à l'heure avec Benjamin Sportouche qui racontait ce qu'il y avait dans le lit. Enfin, ce qu'on en savait, il n'y a pas que ça. Il décrit par exemple la politique d'Emmanuel Macron qui creuse des inégalités.
Alors ça, c'est le deuxième temps.
Ah bah oui, mais en deuxième temps.
Comment se faire Non, mais une fois qu'on explique que le petit a gagné en étant déloyal, le deuxième point, c'est bon, bah je vais attaquer le bilan. Et donc, il y a de la place pour la gauche. Il creuse des inégalités et je vais y aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, attendez, cerise sur le gâteau. Macron qui prend la parole le lendemain de la sortie du livre de Hollande. Paf, on est dans la com.
Ah, ça, on va finir par croire que c'est pas
tout à fait un hasard. C'est un peu. Non, mais c'est
normal. Franchement, vous êtes machiavélique.
Je prends sa défense.
Vous prenez sa défense?
Je vais me faire mon
Génial, le
je vais
Figaro faire son qui prend la défense de François Hollande.
Mais oui, c'est parce
avez,
que. C'est...
Ah, mais oui, les bonnes pages, les premiers extraits feuilles. Étaient chez vous, les bonnes feuilles étaient sur le Figaro.fr.
Voilà. Attendez, vous n'avez pas ce que je vais dire encore.
Ah, bon, d'accord.
Si vous prenez sa défense de François Hollande, ça nous fait plaisir.
Non, mais c'est oui à l'Elysée, si vous voulez.
Ah, oui, ça, vous prenez sa défense.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est normal. L'autre l'a trahi.
Mais arrêtez,
Emmanuel Macron,
cette affaire de
deux
trahison.
Secondes, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole après.
Enfin, c'est moi qui vais la donner. Si vous voulez bien, quand même. C'est moi qui vais la donner.
Christian Ménanteau, si vous voulez bien admettre et accepter d'écouter les autres,
évidemment.
Ça serait pas mal.
Ah, je ne fais que ça depuis tout à l'heure.
L'autre, Emmanuel Macron est ferme, autoritaire. Lui, il est mollasson. Et il ne savait pas prendre une décision. Donc c'est normal, si vous voulez, que
surtout
le contraste...
ne prenez jamais ma défense. Hein, votre
Pardon. Oui. C'est pour ça que j'étais dans l'ironie. Écoutez, je crois qu'il a fait deux erreurs, François Hollande. Il a fait une erreur de timing, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est un peu tôt, effectivement, pour écrire ses mémoires, parce que c'est pas inintéressant.
Non.
Je l'ai pas lu le livre. J'ai lu que les bonnes feuilles, mais c'est pas inintéressant d'avoir son propre point de vue, même si on l'a eu pendant 5 ans, puisqu'il ne l'a pas arrêté de bavasser auprès de journalistes pour nous raconter ce qu'il disait. Et la deuxième chose,
là où il n'y a pas de filtre,
la deuxième
c'est direct,
chose, on peut c'est pour ça que j'attends de lire. Je voudrais savoir si lui, qui est un excellent commentateur politique, comment il explique le raté de sa politique économique. Je m'entends. Il n'a pas raté sa politique économique, précisément.
Non,
il
ne
n'a pas fait du tout ce qu'il avait promis à ses électeurs qui l'ont élu en 2012. Moralité, il a fait une politique économique à partir des vœux de 2014, qui est une politique économique qu'assume complètement, que devrait assumer d'ailleurs Emmanuel Macron.
Avec 2 ans quand même de retard.
Oui, mais enfin, Et cette politique économique, on est obligé de le reconnaître, elle est en train de porter quelques fruits, néanmoins.
Oui, bien sûr.
Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment lui... a une absence de colonne vertébrale de ce point de vue, et qu'il se laisse mener comme un petit bouchon au fil de l'eau. Donc, le pire, la tragédie. Parce que Anne dit...
C'est pas vous qui donnez la parole, mais celle-là, je vais vous la reprendre.
C'est une tragédie grecque, mais c'est pas une tragédie grecque. Parce que l'épisode Leonarda...
C'est
pire que du ridicule.
Christian, je vous donne la parole.
Ah, comme c'est gentil, mon cher Marc-Olivier. On peut se poser peut-être deux interrogations, une petite question, et puis faire une petite remarque. Moi, je crois que le plus maltraité dans cette affaire, pour l'instant, c'est le nouveau premier secrétaire du PS, qui voit...
Il essaye
d'exister, puis il y a un ancien président de la République qui vient lui dire « La gauche, c'est l'ancien mode... » Non, il n'en dit pas de mal, au contraire.
Mais... Ça risque rien, Marc.
Bon, d'accord. Ok, on verra c'est le bon moment. Il y a le problème du... D'abord, qu'est-ce qu'il y a de neuf d'après les bonnes feuilles? Qu'on ne sache déjà et que non...
Ne serait-ce que les coulisses de la façon dont Emmanuel Macron ne lui a pas annoncé sa candidature et même lui a fait croire qu'il n'irait pas jusqu'à la dernière minute.
Yves Tréhard, je trouve que c'est quand même très tôt dans la séquence du deuil présidentiel, et pour commencer à sortir la sulfateuse, c'est probablement un peu prématuré. La question, c'est...
Enfin, si je peux me permettre, Macron l'a un peu cherché, parce que depuis quelques mois, il tape quand même sur le bilan du quinquennat.
Hollande a démarré avec l'affaire Syrie. Souvenez-vous. Hollande a démarré sur le « je vais t'en mettre une » avec l'affaire Syrie. Et l'autre depuis le baston à chaque occasion.
Mais le pire, ce sont les blessures d'amour propre. Et que Macron ait fait la tournée cet été de tous les anciens présidents, sauf Hollande, mais ça, il l'a mal digéré.
Hollande est fidèle à sa légende. C'est un excellent commentateur politique. Il commente un quinquennat qui a donné les résultats, je ne veux pas l'accabler. Moi, ma conclusion est simple. il n'était pas fait pour le job.
Voilà. Il n'était pas fait pour faire de la politique.
Oui, il n'était pas fait pour ça. Il est journaliste. Il a fait ce qu'il a pu. Et ce n'était pas
trop. Parce
que quand il dit, en effet, que le pacte de responsabilité et le CICE ont amélioré la situation politique, économique de ce pays, c'est incontestable. À deux ans, après deux ans de matraquage
fiscal, il est parti d'un mauvais pied.
Les 75% des impôts des gens qui ne savaient même pas si c'était 100 000 euros par semaine, par mois ou par an, enfin, il n'était pas prêt.
Non, mais il n'était pas prêt.
Non, par semaine ou par an.
Il ne savait pas, il n'était pas préparé, il est arrivé là.
Allez, Christian,
alors, à travers ce bouquin, va probablement se poser la question, mais elle s'est déjà certainement posée pour les prédécesseurs, c'est est-ce qu'un président sortant, tout de suite, dans la foulée de sa défaite électorale ou de sa non-présentation, ce qui est l'équivalent d'une défaite, a comme ça un droit de suite sur la politique que met en œuvre son successeur? Parce que est-ce que c'est justifié?
Pas un an après.
Sarkozy l'a pas fait, je pense.
C'est des commentaires sur la Syrie.
Un mot sur la Syrie.
Ouais.
Bon, ça va. Dans les meilleures mémoires que je vous invite à lire, puisqu'on est dans le mémorial aujourd'hui, et on est évidemment dans l'histoire à jamais avec François Hollande, le pouvoir et la vie de Valéry Giscard d'Estaing en deux tomes, qui sont, alors là, avec une distance et une écriture de talent, le récit de son septennat, qui est très intéressant.
Il l'a fait plus tard.
Allez, on parle du successeur d'Emmanuel Macron et de la laïcité, c'est dans un instant sur RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Faugier.
Et avec Annie Lemoine, Christian Menanteau, Yves Tréhard, Jean-Claude Dassy à 19h32 sur RTL. Il se savait observer. Emmanuel Macron a mis les pieds dans le bénitier hier soir face aux évêques. Le président a expliqué qu'il voulait réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Pour Jean-Luc Mélenchon et la gauche, c'est une grave atteinte à la loi de 1905. Tout à l'heure sur RTL, Bernard-Henri Lévy nous disait, lui, qu'il n'y avait pas de problème, le sacré ne s'est pas substitué au légal, la laïcité ce n'est pas la guerre aux curés, aux rabbins ou aux imams. Alors Emmanuel Macron a-t-il bu trop de vin de messe, ou est-il dans son rôle sur les réseaux sociaux, Benoît Garret?
Exagérer un petit peu là, on se sent un peu offensé en tant que... pied dans le bénitier, trop de vin de messe, il y a quelque chose là de peu.
Il semble donner raison parce qu'écoutez, c'était des gros cris sur Twitter. Twitter est laïque et Twitter est en feu, s'écrit Anne Rosenchère de l'Express. Macron en marche sur l'eau est la vanne la plus faite. Très repris aussi Stéphane qui rage après avoir entendu ce discours. La laïcité s'est présentée au commissariat pour déposer plainte pour viol en réunion. Et quand Emmanuel Macron tweet le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il nous incombe de le réparer, Romain propose, avez-vous essayé de débrancher puis rebrancher votre église? Thibault ne rit pas, lui qui aurait préféré entendre le lien entre le personnel soignant, la justice, la SNCF, les universités, les professeurs, les Français et l'État s'est abîmé, il nous incombe de le réparer. Le socialiste Olivier Faure s'étonne, mais de quoi nous parle-t-on? L'église catholique n'a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l'État? En république laïque, aucune foi ne saurait s'imposer à la loi. Benoît Hamon parle d'atteinte sans précédent à la laïcité et Jean-Luc Mélenchon tweet carrément que Macron est en plein délire métaphysique. Physique, insupportable. On attend un président, on entend un sous-curé, dit-il. Melchior leur répond à tous qu'ils parlent trop et trop vite. Écoutez le discours. Vous comprendrez que la loi de séparation de 1905, ce n'est pas l'absence de relations, liens ou contacts avec les religions. C'est incroyable de faire des remarques comme ça. Mais Sébastien rétorque que c'est le président qui choisit sur Twitter d'isoler ces phrases-là, de résumer sa pensée prétendument complexe. Normal qu'on prenne au sérieux ce qu'il décide lui-même de donner comme sens à son discours. Discours qui a blessé, résume Vanessa, tantôt les athées, les citoyens d'autres religions, les familles homoparentales, les femmes et les humanistes en général. Une réaction positive tout de même. Pour finir, Christine Boutin, discours époustouflant de séduction à l'Église catholique de saisir la balle au bon.
Annie Lemoine, place hier, d'abord, Emmanuel Macron, Bernardin et surtout en tenant ce discours-là.
Il répondait à l'invitation. Bon, il avait vu les musulmans l'année dernière, au mois de juin, discours de
rupture
du
jeune.
Le mois dernier, c'était les juifs avec le dîner du CRIF.
Les protestants aussi.
Il va voir donc les catholiques. Il tient un discours. Laïque, hein. Il tient un discours qui est un appel à l'engagement envers les catholiques. Les catholiques s'attendaient parfaitement à ce discours-là. Ils s'attendaient totalement à ça. Alors, il exprime une conception de la laïcité, mais c'est la sienne. Il n'y en a pas qu'une. Elle est sûrement éloignée de celle de Manuel Valls, par exemple, qu'il critiquait beaucoup aujourd'hui. Mais c'est une conception. C'est un intellectuel, il a réfléchi, il est président de la République.
Donc
c'est
il est dans le cadre de la laïcité.
Il est dans une certaine laïcité. Le religieux ne percute pas la laïcité, mais est proche. Ce sont deux mondes qui ne sont pas éloignés, si vous voulez. Les religions n'envahissent pas la laïcité, mais les deux mondes se frottent. Et quand il dit aux catholiques agissez, il n'y a pas que l'humanitaire, il n'y a pas que les associations, faites de la politique. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Peut-être parce que les catholiques votent de plus en plus à l'extrême droite, Front National. Et donc, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une exhortation à agir, à s'impliquer dans la société. Il y a des lois de la bioéthique qui arrivent. Mm-hmm. Il ne leur a pas fait de cadeau. Il y a des choses, il y a la PMA, etc. Il n'est pas en train de leur donner des gages. Il est en train de leur dire soyez dans la bagarre, les gars. Bon, ça peut s'entendre. Et oui. Ce n'est pas une violation de la laïcité. Moi, c'est une conception de la laïcité.
Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire. Je trouve qu'il y en a ras-le-bol de tous ces donneurs de leçons qui, quand un président va chez les musulmans, chez les juifs, chez les protestants, on ne dit rien, on trouve ça normal. Et quand on va chez les cathos, qui sont quand même la majorité des Français dans ce pays, eh bien, on trouve toujours un truc à redire. Alors, il y en a ras-le-bol de ces donneurs de leçons en laïcité.
Si vous voulez bien, Yves, c'est pas le fait qu'il y a, c'est ce qu'il leur dit.
Qu'est-ce qu'il dit chez les musulmans? Qu'est-ce qu'il dit chez... Il leur dit quoi? Le résumé, c'est « engagez-vous dans le débat public ». Je suis désolé.
Le résumé, c'est le lien entre l'État et la religion est abîmé. On va la restaurer ensemble.
Oui. Non, on va pas la restaurer. On va restaurer le lien. Mmh. Alors, les mots sont peut-être pas très bien choisis. Ça, je suis d'accord. Il aurait pas dû parler de lien. Ça, je suis d'accord. Mais, néanmoins, il y en a ras-le-bol que dès qu'on parle des catholiques et dès que le pouvoir dans ce pays, qu'il soit de droite ou de gauche, s'adresse aux catholiques, on en fasse toute une tartine. Je trouve que les catholiques, eh bien, ils sont bien gentils de fermer leur gueule pour la plupart d'entre eux. Je ne parle pas des extrémistes. Et ce qu'a dit Annie est vrai. Je ne dis pas que les catholiques votent de plus en plus pour certains d'entre eux à l'extrême droite. Et pourquoi ils votent de plus en plus à l'extrême droite, à votre avis? Parce qu'ils ont le sentiment, justement, d'être complètement négligés dans ce qu'ils sont dans leur foi. Alors, il est temps, effectivement, qu'il y ait un autre discours vis-à-vis, qui soit pas un discours militant, laïque, ridicule. La France est un pays laïque, mais dans laquelle, eh bien, il y a une voix qui doit être entendue de chacune des religions.
Oui, moi je ne suis pas fondamentalement choqué par la présence du président de la République dans cette...
Il manquerait plus que ça, la présence.
Non, mais certains le sont, la preuve, on vient de l'entendre.
Hier, on a eu le débat, c'était marrant, parce qu'on a eu le débat avant le discours, oui. Et personne n'était choqué.
Certains l'ont pété, par l'usage des mots qui a été utilisé par le président de son
patron.
Mais sur le fond, ce qu'on peut se dire, c'est quand même, c'est que si la République, telle qu'on la conçoit, en tout cas, et telle qu'elle est dans notre Constitution, est assez sûre d'elle, assez confiante de sa force et de sa puissance, elle n'a pas à s'inquiéter de deux ou trois phrases, fussent-elles prononcées par le président de la République devant des évêques. C'est pas parce qu'il dit qu'il faut restaurer le lien avec les uns ou avec les autres que la République est menacée. Je rappelle quand même à tous ceux qui l'ont oublié que la République... Elle entretient une partie de l'Église, de l'école privée, qui est majoritairement sous le contrôle de...
L'école privée sous contrat.
Sous contrat, oui, bien sûr, mais c'est quand même la République qui la finance.
Oui, la plupart sont des
le Concordat en Alsace, en Moselle, à Mayotte ou en Guyane, c'est aussi la République qui la finance, et on entretient toutes les églises de ce pays. Donc, je veux dire, on n'est pas choqué par un quotidien permanent, on est choqué par une petite phrase, je crois qu'elle est extraite d'un contexte, je crois
que... Quelle
phrase ? La phrase qu'a
évoquée... Sur le lien.
Jean-Luc
Mélenchon... Je veux bien dire un mot sur le lien.
Mais vous allez dire un mot. Mais quand Jean-Luc...
c'est la meilleure.
Non, quand Jean-Luc Mélenchon dénonce des paroles irresponsables qui sont sur les braises de tous les communautarismes religieux.
Mais Mélenchon, ce qu'il peut dire, si vous voulez, la laïcité de 1905, c'est la séparation des institutions de la République avec les institutions de, en l'occurrence, l'Église catholique, la catholicité. Mais, Marco, la société française, elle n'est pas laïque. Elle est soit musulmane, juive, parfois, il y a une communauté importante, et évidemment catholique. Et depuis quelques millénaires, dire qu'il n'y a pas de lien entre le pouvoir politique, l'exécutif, et les églises est ridicule. Il n'y a pas de lien avec la société musulmane, en effet. Et c'est bien le problème que nous avons. Il n'y a pas de lien avec la communauté juive, quand il y a 8 ou 10 ministres qui font au dîner du CRIF pour parler de l'avenir d'Israël et de la situation de la communauté juive française. Ça choque en effet personne. Et là, il parle d'un lien avec l'Église catholique, qui est évident depuis des siècles. Il dit qu'il est abîmé. Qui peut le nier? Parce que, qu'on le veuille ou non, les affaires, avec la position éminente que l'Église catholique a occupée dans le passé, c'est vrai que l'affaire du mariage, la PMA, la GPA, tout ça interroge la société catholique. Et c'est pas tout. Sur les migrants, qui va être la grande question des sociétés européennes dans les 50 ans qui viennent, il est clair que l'Église a des difficultés. La société catholique ne comprend pas toujours, bien sûr, ce que pense le pape. L'Église dit avec les migrants, faut être généreux, évidemment, et ils le sont, et ils ont raison de l'être. Mais en même temps, comment vont-ils répondre aux inquiétudes, aux angoisses de la société française
et des catholiques français.
Et des catholiques français qui se demandent s'ils vont être encore dans 20 ans dans le même pays que celui dans lequel ils vivent aujourd'hui.
On en reparle dans un instant.
On attend l'Église.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fouché.
On reprend notre débat donc sur Emmanuel Macron hier chez les Barnardins avec Jean-Claude Dacier, Yves Tréhard, Christian Menanteau, Annie Lemoine. Vous ne pensez pas surtout à Jean-Claude Dacier qui les a endormis, les catholiques, hier, non? Parce que
Non, je pense au contraire. Il
leur a dit comme ça plein de choses gentilles, mais en fait, derrière, la PMA va arriver.
On va voir sur les
migrants.
Marc-Olivier leur explique
qu'ils sont bien gentils avec leurs bons sentiments, mais on va pas accueillir tout le monde. C'était pas surtout une grande entreprise.
Il y avait une certaine logique et un trait d'union à porter, parce que dans le Nouvel Obs pendant la campagne électorale, il avait reconnu que le mariage pour tous avait quand même perturbé et heurté la conscience de pas mal de catholiques. Ce qui était assez étonnant qu'il le dise à ce moment-là. Et ce qui avait été jugé comme opportuniste, bien sûr. Mais il sait très bien. Il sait très bien, et c'est là où le en même temps est toujours difficile à tenir, à mon avis, c'est qu'il va faire la PMA, c'est sûr, il est obligé d'y aller. D'ailleurs, c'est dans son programme.
François Hollande regrette dans son livre de ne pas l'avoir fait.
Voilà. Mais parce que lui, il n'avait pas suffisamment de courage pour y aller.
Il l'a dit.
Il a fait le mariage pour tous.
Mais enfin, il s'en est très peu occupé parce qu'il n'était pas beaucoup en première ligne. Il avait même dit au maire, souvenez-vous, faites ce que vous voulez.
En attendant, il l'a fait.
Enfin, il a fait service.
Mais pour ce qui est de. Effectivement, je pense qu'il est en train de préparer un avenir qui sera un avenir beaucoup moins chatoyant pour les catholiques, enfin tous ceux qui sont attachés à certaines valeurs.
Arrêtez de globaliser les catholiques, très rare.
J'ai dit pour ceux qui sont attachés à certaines valeurs.
En tout cas, le clergé. Quoi.
Mais parce qu'effectivement,
du clergé,
il faut
pas tous.
Voilà. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que effectivement, il va y avoir un débat qui va se porter. L'Église catholique, pour le coup, les représentants du catholicisme en France seront certainement vent debout contre des conclusions qui vont être prises avec les lois
catholiques. Probablement. D'être davantage entendu. Je sais bien qu'on reproche souvent Jean-Claude. À Macron de savoir dire et tenir un discours à ses interlocuteurs que ceux qu'il a envie d'entendre. Il a quand même eu hier. Il a eu un mot, pour moi, je dirais pas un mot magique, on n'est pas là, c'est pas un jeu radiophonique. Mais quand il prononce le mot de sève.
La sève.
Ça veut dire quoi?
L'énergie.
Ça veut dire que l'Église catholique, elle est vivante. Et qu'elle est indispensable à ce que l'arbre produise tous les ans quelques bourgeons et quelques feuilles. Donc moi, bon, qu'il soit habile pour tenir le discours qu'on attend de lui, je veux bien, il est président de la République. Néanmoins, il a une éducation catholique et je pense que ce qu'il
il
a fait hier...
à 11 ans à sa demande.
C'est pas dans le bon sens.
C'est pas comparable au Latran, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy ou Latran, où là, à mon avis, il avait fait une grosse erreur en plaçant évidemment, le curé devant l'instituteur. Ça m'est une...
Allez, Annie, pour conclure.
Oui, un petit zoom arrière. Quelle arnaque. On devait avoir un 21e siècle des femmes. Et on a celui des religions et des religieux de ses excès. C'est navrant.
Ah bon, d'accord.
Elle a dit que le 21e siècle devait être celui des femmes, vous vous souvenez?
Oui.
Et voilà que c'est celui des religions, des religieux.
Mais c'est Malraux qui le disait. Le 21e siècle
sera religieux ou ne sera pas.
Et c'est apocryphe d'ailleurs, il l'aurait jamais dit.
Bien sûr, comme beaucoup de choses.
Allez,
sur le coup, oui.
Une femme, dans un instant, qui parle, Laetitia Hallyday, dans le coin.
Je vois.
Quelle transition.
N'est-ce pas?
On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fauché.
Avec Annie Lemoine, Christian Menanteau, Yves Tréhard et Jean-Claude Dacier à 19h50 sur RTL. Jusqu'à présent, elle était restée silencieuse. Mais Laetitia Hallyday a choisi donc Le Point pour sortir du silence. Le magazine sera en kiosque jeudi, à la veille de la décision du tribunal de Nanterre. Cette interview de 14 pages est signée par le patron de la rédaction, Étienne Jernel. En réalité, c'est l'homme de l'ombre et proche d'Emmanuel Macron, Mathieu Laine, qui est à la manœuvre de A à Z. Alors, affaire de l'héritage du rocker. Qu'attendez-vous de Laetitia, finalement, dans cette interview, Christian Menanteau?
Mais écoutez, j'ai d'abord une grande déception. Ah. C'est pas vous qui avez fait l'interview, donc ça m'intéresse beaucoup.
Il sait me parler,
quel flatteur.
Il sait me parler.
Quel flagrant.
Je me dis que ça va manquer de profondeur, ça va manquer d'intérêt. Et pour être très, très franc, je m'en fiche complètement.
C'est vrai.
Alors,
vous fichez l'histoire depuis le début, alors?
Quelle chute.
Quasiment.
Ah oui, d'accord. Bon, bah alors...
Quasiment. Ah ouais. Écoutez, c'est une histoire familiale comme il y en a des milliers en France.
Oui, mais je vous rappelle que Johnny n'est pas tout à fait...
Écoutez, peut-être qu'on a été un peu vite avec Johnny.
C'est pas son chanteur préféré, apparemment.
Non, j'aime bien Johnny, mais franchement, pas plus non plus. Je me lève pas la nuit pour lui. Et donc, voilà.
Donc vous n'achèterez pas Le Point jeudi, manifestement.
Et
14 pages, ça me paraît en plus assez massif. Vous voyez ce que je veux dire?
Comme Emmanuel Macron quand il a parlé au Point.
Oui, enfin, c'est le président de la République en devenir.
Il y avait un truc qui m'avait échappé, oui, c'est
et
vrai.
L'autre,
je suis pas d'accord avec Christian, je trouve que...
Non, mais attendez,
non, non, mais quand on est journaliste, on regarde un petit peu
mais
quand même.
Mais je vais le feuilleter comme tout le monde, mais
évidemment.
Mais un bout de lunettes,
non, mais
pas plus.
Elle n'a jamais eu vraiment la parole.
C'est vrai.
Elle n'a pas voulu la prendre. Et elle a servi beaucoup de punching ball à l'ensemble des Français qui étaient des admirateurs de Hallyday, parce qu'elle est passée pour, à leurs yeux pour la... la marâtre,
elle pouvait parler avant. Elle pouvait
donc,
parler.
Non, mais je trouve que c'est intéressant justement qu'on ait enfin son point de vue parce qu'elle avait le mauvais rôle dans l'histoire de la marâtre.
Elle pouvait prendre.
C'était vipère au point.
La parole avant.
On a reproché tout à l'heure à François Hollande de parler trop rapidement et de ne pas avoir respecté la période de deuil. Excusez-moi, son mari, lui, est vraiment mort au mois de décembre. Elle parle. Ça n'a rien à voir. Elle avait peut-être autre chose à faire entre janvier et avril.
C'est pas
ça. Alors, on parlait de période de deuil. Là, c'est un vrai deuil.
Mais non, d'abord, il n'y a pas mort d'homme dans le cas de Macron et de...
Mais là, il y a mort d'homme dans le cas de Johnny, oui, justement. Donc le fait qu'elle ne se précipite pas pour parler derrière...
Non, mais elle était mise en cause quand même. Elle était mise en cause par Laura et
non,
par
mais c'est
David.
Marrant, on aurait pu dire, on aurait pu dire exactement le contraire. On aurait pu dire, au moins, elle ne s'expose pas, elle respecte...
Oui, c'est ce qu'elle a essayé de faire croire, en laissant parler les avocats. Mais elle aurait dû prendre la parole depuis longtemps. Elle le fait maintenant...
Moi, je trouve que c'est une certaine décence. Je suis pas d'accord.
Il est très intéressant de savoir ce qu'elle dit dans le papier. C'est avec ça qui intéresse les gens, finalement. Pourquoi elle parle, je pense qu'elle aurait dû prendre la parole bien avant et qu'elle aurait peut-être pu gagner une bataille. Elle est passée, c'est vrai, pour une veuve indigne. Elle aurait pu s'expliquer, répondre aux deux enfants du premier mariage, quel était son sentiment.
Mariages.
Oui, des premiers mariages, pardon. Elle aurait pu donner son point de vue. Elle aurait dû le faire, à mon sens, depuis longtemps.
Jean-Claude.
Pas sûr. Je pense au contraire qu'elle a été habile en attendant que le fiel... se déverse sur ses petites épaules.
D'abord, c'est frêles épaules, alors, Jean-Claude, allez-y.
D'abord, il faut saluer l'exploit du journal.
Ah oui, absolument.
Bien sûr. Bon.
Bien sûr.
Et surtout de son intermédiaire.
Je ne sais pas qui a fait l'interview, mais bravo.
J'espère qu'elle n'a pas été télécommandée par...
Deuxièmement,
on voit un conseiller commun.
On a quand même envie, moi je ne suis pas, comme Christian, je ne suis pas passionné de cette aventure, néanmoins... Je vais lire parce que j'ai envie de savoir ce qu'elle raconte. Elle en a quand même pris pas mal depuis quelques mois. Quelle est la parole enfin ? Je pense qu'elle a eu raison de ne pas se précipiter. Mais enfin.
Mais vous pensez maintenant qu'elle peut renverser.
J'imagine, à raconter. Elle a vécu 20. Combien ?
23.
23 ans de sa vie. Elle est très jeune.
Mais oui, elle est très, très jeune.
L'idole des jeunes. Donc je pense, moi, j'espère qu'elle en parlera. Ça va m'intéresser. Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode de l'héritage ? Est-ce qu'elle va être dure ? Est-ce qu'elle va être pas dure ?
Enfin, alors là-dessus, si je peux me permettre,
on
ça, franchement, elle serait débile d'ouvrir une discussion avant même la décision de justice. Là-dessus, si elle dit, je suis prêt à négocier, alors que le lendemain, on attend une décision de justice.
Je dis pas ça.
Je pense pas que là-dessus,
dans le discours, peut-être indiquera-t-elle sa posture globale. Fermeture complète, ouverture d'esprit, c'est ça que je dis. Ça.
Non, mais ce qui était gênant.
Mais est-ce que vous pensez juste qu'elle peut renverser la table et renverser l'image
une bataille de l'opinion.
C'est pas mort déjà pour elle.
À propos des cheminots, on parle d'une bataille de l'opinion. Là, il y a aussi une bataille de l'opinion.
Bien sûr, bien sûr.
Bataille de l'opinion, pour le moment, elle a quand même été très en faveur de David, de Laura, de tous ceux qui étaient contraires, finalement.
De Nathalie Baye.
Et on les a présentés, elle et sa famille, Boudou, comme un clan horrible, les Thénardier...
Mamie Rock
de l'univers de Johnny Hallyday, et de façon un peu facile, si vous voulez. Alors maintenant, c'est important qu'on les connaisse, enfin, qu'on sache un peu plus.
Et donc vous pensez qu'elle peut renverser l'image, l'opinion, elle peut, parce que...
Elle peut rééquilibrer les choses.
Elle pense qu'elle va dire.
Elle peut essayer.
Attendons le point.
Ouais, enfin, tout ça manque vraiment singulièrement d'amour. Le pauvre qui a chanté l'amour toute sa vie, là, vraiment...
Mais vous pensez... Ouais, mais attendez,
de l'amour, enfin, l'amour, elle en avait peut-être... Vous en avez peut-être, 23 ans ensemble, vous faites un procès. L'amour.
Je veux parler de la famille, ils sont en train de se déchirer.
Mais ça, c'est vrai dans toutes les familles.
C'est l'amour, il y a de l'argent.
Même dans la famille Hollande.
Voilà.
Donc, vous avez un scoop là-dessus, vous préparez une grande interview, très bien.
Donc, le point, donc, jeudi, à part vous, Christian Benanteau, mais tout le monde, donc, va l'acheter ici.
Attends ça avec impatience, et l'un d'entre vous me prêtera quand il aura fini de le lire avec
comme il fait le modeste.
De le dévorer, j'en suis sûr.
En tout cas, le trustee a été nommé ce soir, ouais, c'est Bank of America.
C'est Bank of America, puisque, ça fait chic.
En tout cas, ça prouve que c'est pas elle qui va gérer la fortune de Sony, puisque
prévu,
ça a été. Oui, mais là, c'est une banque. Vous le spécialiste économique, Bank of America, c'est pas n'importe laquelle.
Ah non. Donc elle peut, première banque de Californie.
Elle peut pas les plier en disant j'ai décidé que c'est Bank of America qui décidera donc de la gestion de la fortune.
Absolument.
Mais c'est ça la question, c'est quelle est sa part d'implication? Est-ce que vraiment elle était aux manettes? Est-ce que vraiment elle avait envie de?
J'espère que les questions seront posées, parce que s'il n'y a pas ces questions-là, alors c'est pas la peine. Hein.
Bien sûr.
On verra.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est le choix du magazine.
Absolument.
Parce qu'on aurait pu imaginer que Laetitia se confie à un magazine People entre guillemets, Paris Match, Gala, Closer. Mmh. Et là, elle choisit un news magazine et s'adresse à un public qui est un public.
Closer,
qui est plus...
c'est un peu bas de gamme, donc elle a pris un magazine.
Vous avez très bien compris ce que je veux dire.
Paris Match, ouais.
Elle a choisi Le Point, qui est un journal où on attend, mais les autres aussi sont respectables. Tous les journaux sont respectables, mon cher Christian.
Mais je sais bien que je vais diriger.
Mais surtout, où elle s'adresse à un public qui n'est pas le public.
Ouais, c'est sûr, c'est original. Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, c'est Jacques Pradel sur RTL. Bonsoir, Jacques.
Vous écoutez RTL.